Et la dernière édition d'Afrique Matin, c'est en compagnie de Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Namoury, bonjour à tous. Et nous serons dans un instant à Bissau, là où était hier le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite d'État. Sénégal, Guinée-Bissau, deux pays voisins qui affichent leur bonne entente. Dans ce journal également, le Sahel, à nouveau endeuillé par des attaques djihadistes et des soldats tués par dizaines au Niger avant-hier et au Mali vendredi. Explication à suivre. Et puis la République démocratique du Congo, alors que l'ancien président Joseph Kabila est annoncé à Goma, Amnesty International assure de son côté que l'AFC M23 qui contrôle la ville y commet de possibles crimes de guerre. Qui dit visite d'État dit accueil en grande pompe à Bissau hier où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé pour une visite de 24 heures. Sénégal-Guinée-Bissau, deux pays voisins donc qui veulent afficher leur bonne entente. Reportage d'Alain Yarouambalo.
De mémoire de Bissau-Guinéa, jamais un chef d'État étranger n'a été aussi ovationné le long des 8 km qui séparent l'aéroport du centre-ville. Drapeau sénégalais et Bissau-Guinéa à la main, des milliers de jeunes ont suivi le cortège avec joie.
La Guinée-Bissau et le Sénégal appartiennent à la même nation. Nos liens datent d'avant la colonisation. Nous constituons une même famille. C'est pour cette raison que nous sommes massivement sortis pour accueillir le président Diomaye.
Diomaye est un jeune président aimé par tous. Nous attendons de lui une bonne collaboration avec le nôtre. C'est pour cette bonne raison que je suis venu lui témoigner ma satisfaction.
Ce déplacement, le président Bassirou Diomaye Faye l'a placé sous le signe de renforcement des liens historiques, de coopération, d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Nos peuples sont inséparables parce que nous sommes liés par l'histoire, liés par la géographie, liés par la culture. Ce moment que nous partageons ensemble traduit assurément la qualité exceptionnelle des relations d'amitié fraternelle et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Les entretiens approfondis entre les deux chefs d'État se sont penchés sur des accords bilatéraux existants concernant la gestion de la frontière commune, la libre circulation, l'agriculture et la transformation des produits locaux. Alain Yarouambalo, Bissau, RFI.
Et dans le même temps, à Dakar, la Cour spéciale de la justice sénégalaise a poursuivi les mises en accusation d'anciens ministres du président Macky Sall. Ils sont désormais cinq, avec l'inculpation hier d'Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, poursuivi lui aussi pour des faits présumés de détournement et de corruption dans la gestion de fonds de lutte contre le Covid. On en a parlé ce matin avec notre invité Afrique, le chercheur politologue Mamadou Lamine Sarr, entretien à réécouter sur RFI.fr. RFI, 9h33 à Niamey, l'actualité au Niger avec des opérations de ratissage organisées dans la région de Tawa, deux jours après la très sévère attaque qui a touché la base militaire d'Eknewan, près de la frontière avec le Mali. Ce matin, des sources sécuritaires parlent désormais d'un bilan de 58 soldats tués lors de cette attaque attribuée aux djihadistes du groupe État islamique. Au Mali même, c'est le JNIM là qui est en cause. Vendredi, une quarantaine de soldats ont été tués. Le JNIM, lié à Al-Qaïda, qui a revendiqué avoir pris le contrôle du camp militaire de Diourra, région de Mopti dans le centre du Mali, faisant une quarantaine de morts côté soldats. Précision et explication avec David Bachet.
Une attaque terrible, ils ont dévalisé le camp, confie une source sécuritaire malienne, qui déplore des manquements. Il y avait eu des alertes, mais la hiérarchie a été trop négligente. Lors de l'attaque de leur camp, les soldats de Diourra n'ont reçu aucun renfort et n'ont bénéficié d'aucun soutien aérien. Un détachement de l'armée a fini par arriver sur les lieux dimanche, le surlendemain, et n'a pu que constater l'état des dégâts. Vendredi, les djihadistes du JNIM ont pris le contrôle du camp militaire en début d'après-midi. Ils y sont restés jusque tard le soir et sont même revenus le lendemain samedi, circulant dans le camp et dans la ville de Diourra, comme l'ont rapporté plusieurs témoins. Dans ses vidéos de revendication, le JNIM a diffusé les terribles images de soldats maliens morts au combat. Le JNIM exhibe également les nombreux véhicules dérobés à l'armée malienne. Des armes, des munitions, des documents d'identité de soldats tués font aussi partie du butin. De quoi renforcer, encore une fois, l'arsenal des djihadistes.
Et notez que l'armée malienne que nous avons sollicitée n'a pas donné suite et n'a pas communiqué sur cette attaque. Par ailleurs, hier, c'est le camp militaire de Soumpi dans la région de Tombouctou qui a été visé par des tirs de drones. Cette fois, ce sont les rebelles du FLA, Front de Libération de l'Azawad, qui revendiquent.
RFI.
La Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne qui se concentre toujours en ce moment sur la préparation de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Du côté du PDCI, principale formation de l'opposition, c'est toujours l'incertitude. La justice a ordonné la radiation des listes électorales de Tidiane Thiam, le candidat désigné du parti, ce qu'il rendrait inéligible. Une situation qui pousse Jean-Louis Billon, pourtant en rupture avec les instances du parti, à se manifester. Il assure, je cite, que son ambition est intacte à Abidjan Bintadiagne.
Depuis quelques semaines, Jean-Louis Billon était resté silencieux, dénonçant une mascarade. Il n'était pas candidat à la convention qui, le mois dernier, a désigné Tidiane Thiam candidat à la présidentielle. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Billon part d'un constat. Son parti, le PDCI, n'a pas de candidat pour la présidentielle, dit-il. Au nom de l'unité et pour éviter que le PDCI ne rate ce rendez-vous électoral, Jean-Louis Billon réaffirme ses ambitions.
Je suis PDCI. Aujourd'hui, le PDCI n'a pas de candidat. J'appelle au débat démocratique au niveau du parti. Si je suis entendu, tant mieux. Si je ne suis pas entendu, j'avancerai. Je suis soutenu par un ensemble, déjà, de mouvements et d'autres partis politiques. Je n'ai pas besoin d'aller en candidat indépendant. Il y a une myriade de mouvements et de partis qui me soutiennent. Et je ramènerai cette victoire au PDCI.
Sollicité par RFI, le porte-parole du PDCI affirme ne pas avoir d'informations au sujet d'une tentative de rapprochement avec la direction du parti. Une requête qui surprend certains cadres qui relèvent des contradictions. Jean-Louis Billon ne participe pas aux réunions du parti. Il était absent des deux derniers bureaux politiques, souligne l'un d'eux. Il n'y a pas de concertation interne sur cette question, affirme un autre membre du bureau politique qui dénonce une démarche individuelle. Nous nous battons pour que notre candidat, à savoir Tidiane Thiam, soit maintenu sur la liste électorale, poursuit cette source. Bintadiane Abidjan, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, la justice en France et en Algérie, à Paris. Le parquet national antiterroriste insiste pour tenter d'obtenir la mise en examen d'Agathe Abiarimana pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis en 1994. Parquet qui annonce avoir fait appel d'une nouvelle décision de justice il y a 10 jours, mettant hors de cause la veuve de l'ancien président rwandais. En Algérie, ce sont plusieurs dizaines de personnes hier qui ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme, trafic d'influence, abus de fonction ou encore escroquerie, tous reconnus coupables dans une affaire d'achat de parrainage en vue de la dernière élection présidentielle. Et ceux qui écopent des peines les plus lourdes, ce sont 3 des candidats écartés de cette élection. Enfin, en République démocratique du Congo, les proches de Joseph Kabila et les dirigeants du groupe politico-militaire AFC M23 affirment que l'ancien président congolais est à Goma, la grande ville de l'est du pays, ville contrôlée par les rebelles depuis le mois de janvier. Des proches qui promettent aussi d'en dire plus aujourd'hui sur son programme et sur les entretiens que l'ex-chef de l'État compte mener dans les prochains jours. De son côté, Amnesty International alerte sur des cas de torture et de mort dans des lieux de détention à Goma, à Bukavu et dans les zones contrôlées par l'AFC M23. L'ONG de défense des droits de l'homme publie un rapport aujourd'hui affirmant que le M23, je cite, « tue, torture et fait disparaître de force des détenus ». Des actes qui violent le droit international humanitaire et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre, affirme Amnesty International. Écoutez Christian Roumou, chargé de campagne pour la région des Grands Lacs.
Nous avons documenté au moins 4 cas où des détenus étaient torturés par la M23 et puis ces 4 personnes sont mortes à la suite de ces tortures. Nous avons documenté des cas d'arrestation arbitraire. Des personnes ont été arrêtées sur base d'accusations que ces personnes collaboraient avec le gouvernement ou collaboraient avec la société civile, mais tout cela sans preuve. Et les 18 personnes que nous avons interviewées pour ce travail nous ont dépeint des conditions très très difficiles. On leur refusait de la nourriture, même de l'eau, mais aussi ils ont décrit des conditions sanitaires qui étaient horribles. Nous sommes très très alarmés par cette situation parce que ces actes qui constituent une violation grave du droit international humanitaire et qui peuvent en fait constituer des crimes de guerre, se passent dans des conditions où il n'y a pas du tout de monitoring de ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut absolument que le M23 donne accès aux moniteurs internationaux pour qu'ils puissent visiter ces sites.
Christian Roumou de l'ONG Amnesty International. Et à Goma, comme ici, à Paris, il est maintenant 10h40. C'est à vous, Namori Dosso.
Merci Xavier, c'était le journal de Xavier Besson. Prochaine édition avec l'actualité africaine, 12h30 temps universel.